VOA Afrique, les infos à Washington.
Eric Manilakiza avec vous. Bonsoir chez vous. Nous sommes le 3 septembre 2015. D'abord, l'actualité africaine. Dans l'extrême nord du Cameroun, au moins 30 personnes ont été tuées dans un double attentat suicide. Selon des sources militaires et policières, c'était aujourd'hui matin à Kerewa, une ville frontalière avec le Nigeria. Et la localité de Kerewa est également frontalière avec le Tchad. Depuis 2 ans, elle est la cible régulière de raids meurtriers, d'enlèvements et désormais d'attentats suicides, jusque-là inédits dans ce pays mené par Boko Haram. Et dans le centre du Mali, près de 20 personnes sont mortes hier dans le naufrage d'une pirogue transportant des passagers et des marchandises sur le fleuve Niger. L'accident s'est produit près d'Obangou, au nord de Mopti. Les militaires nigériens qui ont repris la ville de Gamburo, à la frontière avec le Cameroun, sont allés serrer la main aux soldats camerounais et tchadiens sur un pont frontalier emblématique de la guerre contre Boko Haram. Et toujours, l'armée nigériane a réintégré quelques 3000 soldats accusés d'actes d'insoumission dans la lutte contre Boko Haram. Le porte-parole de l'armée, le colonel Sani Ousmane, a précisé que 5000 dossiers ont été examinés et 3032 soldats ont été graciés, réintégrés ou même débuté l'entraînement. Il a ajouté que les autorités militaires ont confirmé les condamnations de soldats qui avaient un dossier criminel sans préciser davantage. La justice nigériane devra décider du sort de 66 soldats condamnés à mort pour mutinerie et abandon de poste. Les condamnés ont déjà fait appel l'année dernière. Des militaires nigériens basés à Maïdougouri se sont même rebellés après avoir été assignés dans une région reculée pour combattre Boko Haram. Les épouses de ces soldats avaient même organisé une manifestation devant une caserne pour dénoncer l'utilisation de leur mari comme chair à canon face à des islamistes mieux équipés. Et aux 7 Maliens, des djihadistes présumés ont été arrêtés en Côte d'Ivoire, puis extradés vers le Mali. Ils seraient tous membres d'unités combattantes dirigées par une certaine Souleymane Keïta.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Centrafrique, selon le commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zaid Raad Al Hussein, la jeune fille qui avait été victime d'abus sexuels a donné naissance à un enfant en avril dernier. Des soldats français de l'opération Sangari s'étaient accusés de viol. Une plainte contre le président tchadien Idriss Déby a été déposée hier devant les chambres africaines extraordinaires basées à Dakar. Les plaignants des Tchadiens l'accusent de torture et d'exécution de prisonniers dans les années 90. Le procès de Hissène Habré doit reprendre lundi. Et devant la CPI, la Cour pénale internationale, Bosco Ntaganda, ancien chef rebelle congolais, a brièvement plaidé non coupable. C'était hier lors de la première journée du procès depuis sa reddition en 2013. La parole a été à la défense aujourd'hui dans le procès devant donc les juges de la Cour pénale internationale. Et la procureure Fatou Bensouda avait détaillé hier les accusations retenues contre M. Ntaganda, qui a gardé sa fine moustache emblématique, et notamment évoqué l'organisation à grande échelle et systématique de viols sur la population civile et au sein de sa propre milice à prédominance Emma, qui visait, selon l'accusation, des populations perçues comme appartenant aux ethnies l'hindou, Bira et Nandé. Aujourd'hui, la défense a pris la parole. Le Canadien Stéphane Bourgon a développé ce qu'il a qualifié de récit, les accusations formulées contre son client. Et le gouvernement congolais a interdit la diffusion d'un film documentaire sur le travail du docteur Denis Mukwege dans son hôpital de Panzi à Bukavu. Pour Kinshasa, ce film salit l'honneur de l'armée congolaise. Et toujours en RDC, les représentants de l'ONU, de l'Union africaine, des États-Unis, de l'Union européenne et de la Belgique pour la région des Grands Lacs appellent à des mesures urgentes pour la tenue d'élections transparentes et crédibles dans ce pays. Les détails avec Eddie Issango.
Dans une déclaration commune publiée ce jeudi, les envoyés spéciaux et représentants internationaux soulignent la nécessité pour les autorités congolaises d'agir pour garantir un espace politique ouvert, la liberté des médias ainsi que la mise en place d'un cadre permettant une participation équitable de toutes les parties au processus électoral. Autre souci souligné dans la déclaration, les respects des délais constitutionnels, mais aussi la réussite de la première transition démocratique dans le pays. Les représentants de la communauté internationale appellent par conséquent tous les acteurs politiques à œuvrer en vue de parvenir rapidement à un accord sur les conditions d'un processus crédible. Les élections provinciales et locales doivent se tenir en RDC à partir d'octobre, suivies de la présidentielle et des législatives en novembre 2016. Le climat est tendu dans le pays. L'opposition soupçonne le président Joseph Kabila de vouloir se maintenir à son poste au-delà de la fin de son mandat, alors que la Constitution lui impose d'abandonner ses fonctions fin 2016. M. Kabila a appelé au dialogue, mais une grande partie de l'opposition n'en veut pas.
Merci à Eddy Isango. Le Bénin fait partie des pays de la sous-région ouest-africaine qui, sous l'impulsion de la libéralisation des ondes, enregistre un nombre impressionnant de journalistes, pour la plupart à peine sortis de l'université ou diplômés à la recherche d'un emploi. Mais leurs conditions de vie et de travail ne sont pas des meilleures, surtout ceux de la presse privée qui doit fournir plus d'efforts pour un salaire de misère. L'OMS déclare la fin de la transmission du virus Ebola au Libéria. 42 jours se sont écoulés après le dernier cas confirmé. L'épidémie a fait près de 4 800 morts dans ce pays. Le Libéria a annoncé aujourd'hui qu'elle se félicite de la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies de mettre fin à des sanctions, y compris l'interdiction de voyager, de gel des avoirs de certaines personnes qui avaient été jugées pour danger public à la stabilité du pays. Et en Zimbabwe, le récent assassinat de Cécile, le lion, a suscité une vague d'aide chinoise à lutter contre le braconnage dans ce pays. Le gouvernement chinois a fait un don de 2,3 millions de dollars, un groupe se faisant appeler la fondation de l'association Sinozim Wildlife a également fait don de matériel anti-braconnage équivalent à plus de 100 000 dollars.
VOA Afrique en direct de Washington.
Dans le reste du monde, le président du Guatemala, Otto Pérez, a démissionné. Il était accusé de corruption et risquait d'être destitué après avoir perdu son immunité. Les précisions de Dili Dico.
Cette décision survient quelques heures seulement après le lancement d'un mandat d'arrêt lancé par la justice contre M. Pérez, un général en retraite de 64 ans. Il avait été privé mardi de son impunité par un vote à l'unanimité du Parlement, une mesure inédite dans l'histoire du Guatemala et célébrée par une foule de citoyens selon l'AFP. Dès mardi soir, la justice lui avait interdit de sortir du territoire et mercredi, la Cour constitutionnelle a rejeté ses recours visant à faire suspendre la procédure. Dans ce dossier, son ancienne vice-présidente Roxana Baldetti, démissionnaire en mai, est également poursuivie et déjà en détention provisoire. Otto Pérez est accusé par le parquet et une commission de l'ONU contre l'impunité d'avoir dirigé un système de corruption au sein des douanes via lequel des fonctionnaires touchaient des pots de vin pour exonérer certaines importations de taxes. La procédure à son encontre survient à un moment de mobilisation populaire sans précédent dans ce pays pauvre d'Amérique centrale et à quelques jours seulement des élections prévues dimanche auxquelles M. Pérez ne pouvait se présenter, la Constitution n'autorisant qu'un seul mandat. C'est théoriquement son vice-président, Alejandro Maldonado, qui doit le remplacer.
Et la police turque a interpellé aujourd'hui 4 passeurs présumés de nationalité syrienne après le naufrage qui a causé la mort de 12 migrants à destination de la Grèce, parmi lesquels un enfant de 3 ans dont les photos ont fait le tour du monde. Entraîne également en Hongrie au risque de devoir demeurer dans ce pays ou remettre une nouvelle fois son destin entre les mains de passeurs dans l'espoir de rejoindre finalement l'Allemagne à la frontière serbo-hongroise. Le dilemme déchire un groupe de migrants irakiens. La France, l'Allemagne vont transmettre à Bruxelles des propositions communes pour organiser l'accueil des réfugiés et une répartition équitable en Europe et rapprocher les normes pour renforcer le système d'asile européen. Et c'est ici que nous mettons un point final à ce journal. Le prochain dans 50 minutes. Au revoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
On y va.